qu'ils comprennent, ok? Le sujet que j'ai choisi pour vous présenter au premier abord n'a pas de rapport avec ce que nous venons de faire, d'observer, d'apprendre. Mais en fin de compte, c'est un grand rapport, c'est-à-dire ils sont très liés. Et j'aimerais vous lire un passage que je n'avais pas pensé lire. Maintenant, je vais le lire comme introduction et puis je vais présenter l'étude que j'ai préparée, ok? Si vous voulez chercher avec moi, Romains chapitre 12. Là, on nous a parlé d'adoration, de louange, une façon de glorifier notre Seigneur, notre Dieu. Et l'apôtre Paul, dans ce passage, parle justement de cela, d'une façon, si vous voulez, pratique. Chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc pensez à cela et je reviendrai, j'espère, avant que je finisse l'étude pour ce matin. Bon, à Lyon, nous offrons deux fois par mois une étude biblique qui est ouverte au public, c'est-à-dire c'est pour le public. Bien sûr, il y a des membres de l'Assemblée qui assistent aussi, mais le sujet à ce moment, c'est l'Évangile selon Jean. Et l'Évangile est riche pour nous, comme il était pour les gens de l'époque de Jean, parce que Jean nous présente dans son Évangile Jésus. Jésus qui est à la fois 100% homme, 100% Dieu, et aussi le Christ, il est le Messie. Et dans chaque chapitre, ces trois thèmes, c'est-à-dire homme, Dieu et Christ, reviennent afin de nous indiquer que Jésus, il est le chemin à la vie. En effet, Jésus l'a dit, n'est-ce pas, en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et s'il y a un passage qui résume tout le livre, le message du livre, ce thème de vie, c'est en Jean chapitre 20, les versets 30 et 31, où Jean a écrit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mais souvent, ces trois thèmes de homme, Dieu et Christ sont révélés dans les entretiens de Jésus avec des individus et des groupes de personnes. Par exemple, au chapitre 3 et 4, on peut dire que Jésus se révèle d'abord par un contraste entre deux individus, mais en même temps, il se révèle par le besoin commun de connaître Dieu davantage. Selon le chapitre 3, Jésus a quelque chose à dire, à offrir plutôt, à un homme qui pense tout avoir. Et cet homme que nous connaissons, il s'appelle Nicodème. L'homme, il n'est pas n'importe quel juif, il est un homme juif, mais il est un des chefs du peuple. Et en sa faveur, je crois que nous pouvons dire qu'il était un chef qui, au contraire des autres chefs du peuple, était ouvert à la possibilité que Jésus soit le Christ. De toute façon, bien qu'il ait la descendance, bien qu'il ait la position en Israël, il était un docteur de la loi, et tout cela, il lui manque quelque chose de significatif dans sa vie, afin de connaître Dieu, afin de faire partie du règne de Dieu dans sa vie. Et ce qui lui manque, c'est d'être né dans l'eau, ou on peut le dire aussi, d'être né de nouveau. Il lui manque cela. Bien sûr, il n'est pas le seul, car tout homme, toute femme, doit être né dans l'eau afin d'entrer dans le règne de Dieu. Mais par la suite, selon les chapitres 7 et 19, je crois que nous pouvons conclure que Nicodème est devenu un disciple du Christ, parce qu'au chapitre 7, il défend Jésus devant les autres chefs religieux, et au chapitre 19, lui avec Joseph d'Arimathée, ils enterrent le corps de Jésus, quelque chose de faire publiquement, ouvertement, n'était pas quelque chose de banal, c'était quelque chose de très important parce que là, il se révèle comme quelqu'un qui croit en lui. Or, Après la rencontre avec Nicodème, quelque temps se passe entre le chapitre 12, verset 24, et le chapitre 4, le verset 1. J'aimerais que vous cherchiez avec moi, et on va lire quelques versets au chapitre 4 de Jean. Vous avez tous, je suppose, vous connaissez tous la parabole du bon samaritain, en Luc chapitre 10. Or, ici au chapitre 4 de l'évangile selon Jean, nous trouvons ce que j'appelle l'histoire de la mauvaise samaritaine. Et vous verrez sur le feuille ou le programme que c'est ça le titre de mon étude pour ce matin. La femme, la mauvaise samaritaine. Bon, il y a une différence frappante entre les deux récits. Celui du bon samaritain et de la mauvaise samaritaine, c'est que le bon samaritain, c'est une parabole. C'est une histoire, une parabole que Jésus a racontée pour illustrer un point. Quelque chose qui probablement n'a pas réellement eu lieu. Bon, j'étais en Israël en 85, et justement entre Jéricho et Jérusalem, il y a une petite auberge qui s'appelle l'auberge du bon samaritain, mais il ne faut pas croire que c'est vrai. Ils essaient d'avoir l'argent des touristes de toute manière. Mais ce qui est frappant, c'est que le récit de la mauvaise samaritaine est une vraie histoire. C'est quelque chose qui a réellement eu lieu, parce que Jean et les autres apôtres étaient témoins de cela. Et nous avons donc le récit de Jean au chapitre 4. Mais sans oublier les trois thèmes de l'évangile, l'humanité, la divinité, le messianisme de Jésus, dans ce récit, Jean nous fait découvrir autre chose primordiale et je dirais pratique pour nous tous. Et ce sont ces choses-là que j'aimerais partager avec vous ce matin. Ça va revenir à ce thème que j'ai lu au verset 1 et 2 de Romains 12, présentez vos corps comme un sacrifice vivant qui est un culte ou un service raisonnable. Et ça va se rejoindre donc avec cette idée d'adorer Dieu et donner lui des louanges. Et une des choses remarquables dans ce chapitre, peut-être la chose remarquable, à part ces trois thèmes, c'est que cette femme est devenue un grand témoin de Jésus comme le Christ. Et si vous connaissez bien son histoire, ça peut peut-être vous étonner un peu. Mais Jésus faisait ça souvent, c'est-à-dire il a choisi des personnes que nous n'aurions pas choisies. Ou, si vous voulez, il a laissé agir des personnes que nous n'aurions pas tellement appréciées. Je pense, par exemple, à l'homme démoniaque qui vivait parmi les tombeaux de l'autre côté de la mer de Galilée, c'est-à-dire en Décapole. Lui qui, avant son rencontre avec Jésus, avant sa guérison, n'avait pas vraiment de réputation. Mais après être guéri par Jésus, il a mon avis, c'est grâce à lui en grande partie que la Décapole, pas tout de suite, mais par la suite, a reçu le Christ. Je pense bien sûr, nous pouvons penser tous à Saul de Tarse, qui persécutait des chrétiens avant de devenir disciple, et nous pouvons nous rappeler bien sûr de tout ce qu'il a fait après que Jésus l'a appelé, si vous voulez. Mais Dieu agissait de la même manière selon l'Ancien Testament. Et là, je vais vous donner un exemple qui n'est pas une personne, mais une chose. Dieu s'est servi d'une chose, le buisson ardent. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce buisson-là sur le mont Sinaï? Il s'est servi, bien sûr, de ce buisson pour se révéler sa sainteté, sa personne à Moïse, qui voulait envoyer en Égypte pour accomplir son dessein, pour accomplir et sortir son peuple de ce pays. Mais Dieu aurait pu choisir n'importe quel buisson, ou rocher, arbre, ou n'importe quoi. Mais il a choisi celui-là sur le mont Sinaï. Et ici, dans Jean chapitre 4, je vais dire que cette Samaritaine est devenue le buisson ardent de Dieu pour se révéler à son peuple. Ainsi, il y a plusieurs leçons remarquables dans cette histoire, dont je voudrais vous suggérer deux déjà. Et la première leçon à retenir est que Jésus peut se servir de n'importe qui pour rendre témoignage de lui, ou il peut laisser agir n'importe qui, ou je dirais même n'importe quoi, pour le révéler. Et la deuxième leçon, c'est que pas seulement Jésus peut-il se servir de n'importe qui, mais il nous montre par son propre exemple que nous, c'est-à-dire nous ne devons pas laisser les obstacles nous empêcher dans nos efforts de servir et d'enseigner les autres. Donc, qu'est-ce que je veux dire par cela? Autrement dit, nous apprenons par cette histoire que parfois les choses qui ne se font pas doivent se faire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par cela? Bon, par son propre exemple, Jésus nous montre qu'il surmonte tout obstacle où il a fait des choses qui ne devaient pas se faire. Il y a plusieurs possibilités ici. D'abord, ou premièrement, il a surmonté l'obstacle social. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, à l'époque, pour un homme de parler avec une femme en public, une femme qui n'était pas son épouse ne se faisait pas. Mais Jésus l'a fait ici. Deuxièmement, il a surmonté l'obstacle de race. Jésus était juif, et elle était samaritaine, une métisse, si vous voulez, parce que les juifs, d'abord, Jean le dit, n'avaient pas de relation avec les samaritains, les considérant pire que les hérétiques, mais ce qui faisait monter la haine en plus, c'était que c'était un peuple mélangé. C'était le peuple juif à l'origine, mais mélangé maintenant avec les païens. Et bien sûr, ils avaient corrompu le culte de Dieu et l'enseignement qui venait de la loi de Moïse. Mais Jésus a parlé avec elle quand même. Troisièmement, il y avait l'obstacle moral. Et c'est peut-être celui-là qui nous empêche le plus, je ne sais pas. Mais Jésus était sans péché. Et apparemment, c'était une femme qui avait beaucoup de péchés. Elle était une grande pécheresse, mais Jésus a parlé avec elle. Et quatrièmement, Jésus ne faisait pas de cas d'obstacles posés par l'influence des autres. Sans compter le propre préjugé, d'autres juifs n'auraient pas parlé avec elle à cause de ce que les gens auraient dit. Les apôtres non plus, je crois, n'auraient pas parlé avec elle, parce qu'au verset 27, ils s'étonnaient même que Jésus parlait avec une femme. Sans parler du fait qu'elle était samaritaine. Mais l'influence des autres ou le candidateur n'a pas empêché Jésus de parler avec elle. Et donc, je vous rappelle ceci, parce que Jésus a pris le temps pour elle, la femme samaritaine est devenue un des grands témoins, de grand nombre de témoins de son messianisme. Parce qu'à travers elle, ou au moins par son commencement, si vous voulez, par sa petite foi, presque tout le village a été converti. La ville de Sychar. Ni sa position sociale, ni sa race, ni ses mœurs, ni le candidat-on ont empêché Jésus de faire ce qui était juste de faire. C'était vers le sixième heure. Bon, on va aborder maintenant le chapitre. Vers le sixième heure, ou midi, quand personne vient d'habitude pour puiser de l'eau, ce qui nous donne déjà une indication de qui était cette femme, parce que peut-être elle est venue à cette heure-là pour justement éviter le contact avec d'autres personnes de la ville, je ne sais pas, c'est un peu mon idée là. Mais Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et elle s'étonne, elle lui demande, comment toi qui es un juif, qui est juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Comme ailleurs, dans l'évangile, selon Jean, et en particulier avec Nicodème, Jésus, il offre la vie à cette femme. Comme j'ai dit, c'est le thème, je crois, de tout l'évangile. Au verset 10, par exemple, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette offre de vie, comme je dis, c'est le thème général de l'évangile. Si nous voulons et amener les gens à mieux connaître Jésus et ainsi à voir la vie, nous devons suivre l'exemple de Jésus ici qui les rencontrait où ils étaient. Cette femme est venue chercher de l'eau. Et Jésus commence par parler de l'eau. Mais vous remarquerez tout de suite qu'elle n'a pas plus longtemps pour ramener la conversation à quelque chose de spirituel. Mais là, au moins, il a commencé où elle était, en parlant de l'eau. Et l'apôtre Paul, il faisait cela souvent, n'est-ce pas? Il a dit en 1 Corinthiens chapitre 9, quatre fois, entre versets 19 et 23, je résume, qu'il est devenu toute chose afin de gagner le plus grand nombre. À Athènes, bien qu'il était, si vous voulez, exaspéré par toutes ces idoles qu'il a vues dans la ville, il a quand même commencé à parler des idoles et de combien il constatait qu'ils étaient religieux. Et puis, à partir de là, il a commencé à parler du Christ, de Dieu, du Créateur, etc., et à parler de sa résurrection. Basé donc sur tout cela. Quand Nicodème, Jésus a demandé à boire, il a dit, si tu as compris qui t'a demandé cela, tu aurais demandé de l'eau à lui, à boire à lui, tu aurais donné de l'eau vive. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas saisi tout de suite. Elle ne pensait qu'au physique, comme Nicodème, comment est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma mère pour être né une deuxième fois. Mais Jésus voulait l'amener à penser au spirituel. Et ainsi, il a parlé de l'eau vive, de l'eau qui donne la vie éternelle. Et si vous lisez plus loin dans l'Évangile, au chapitre 7, les versets 37-38, Jésus dit, je suis cette eau. Si vous buvez de moi ou à moi, vous aurez la vie. Comme il a dit, je suis le pain de vie, ou comme plus loin il a dit, je suis le bon berger, ou la lumière, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'elle demande, cette femme? Lisez avec moi les versets 11 et 12. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Mais elle pense toujours au physique, il me semble, mais il y a une chose remarquable. Elle pose la question, es-tu plus grand que notre père Jacob? Et ça se laisse entendre la réponse, parce que la réponse est oui, il est plus grand que Jacob. Jacob n'a pu donner que de l'eau. Mais Jésus, bien sûr, offre la vie. Mais maintenant, elle est curieuse et elle commence à s'ouvrir au verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Bon, encore, elle pense au physique. Mais parce qu'elle s'est montrée intéressée, maintenant, Jésus, il peut commencer à parler de ses besoins actuels. Et par cela, se révéler davantage à elle, parce qu'en parlant d'elle, il va se révéler, n'est-ce pas? On peut soupçonner qu'elle était une femme de mauvaise réputation par le fait qu'elle soit venue puiser de l'eau à 7 heures de la journée, déjà à midi. Mais nous pouvons soupçonner cela, mais Jésus savait ce qu'elle était. Qu'est-ce qu'il a dit? Va, appelle ton mari et reviens ici. Et on peut imaginer un peu sa réaction, n'est-ce pas? Sa tête se baisse peut-être et elle dit, mais je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Verset 17. Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Il est possible qu'elle soit veuve 5 fois, mais ça m'étonne. Mais si une chose est sûre, l'homme avec qui elle vit maintenant n'est pas son mari. Soit elle vit dans la fornication, soit elle est adultère. En effet, ça revient au même, n'est-ce pas? Elle est pécheresse. Elle est surprise que Jésus connaît sa situation et commence à voir en lui plus qu'un homme. Elle commence à voir en lui un prophète. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est embarrassée, ou peut-être maintenant sa curiosité a été piquée un petit peu. Elle change de sujet, elle pose une question spirituelle. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Bon, Jésus l'a fait comprendre que sa question n'était pas pertinente. Verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Elle pense toujours au physique. Dans ce cas, elle pense à un lieu, ou plutôt à un rite. Mais Jésus veut qu'elle pense au spirituel, à son cœur et à son rapport avec Dieu, d'une relation spirituelle et véritable avec son Créateur. Versets 25 et 26. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera tout. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Bon, cette femme, elle devine, qu'il est prophète. Maintenant, Jésus se révèle comme étant plus qu'un prophète. Il n'est pas n'importe quel prophète, il est le Messie. Et si vous vous rappelez un peu de vos études, la Bible, il y a le prophète, il y a le roi, le souverain sacrificateur, et tous ces trois sont réunis en le Messie, celui qui est roi de la part de Dieu pour sauver son peuple. Bon, avec cette révélation en tête, il vient de dire, moi je le suis, la femme, elle part, elle repart, elle rentre dans la ville, et les disciples reviennent. Et encore verset 27, les disciples furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Quelque chose qui ne se faisait pas. Donc la femme est rentrée dans la ville et elle commence tout de suite à témoigner du messianisme de Jésus en parlant de ce qu'elle a découvert. Et voilà la chose étonnante, Jésus la laisse faire. Il n'empêche pas cette femme de faire cela, cette femme immorale. Mais Dieu s'est servi d'autres gens que nous n'aurions pas choisis, n'est-ce pas? Par exemple, il s'est servi du pharaon d'Égypte pour faire éclater sa gloire devant, pas seulement son peuple, mais devant le monde entier. Quand les Juifs sont arrivés à la terre promise, les gens de Jéricho, par exemple, ils avaient entendu parler de ce Dieu qui a fait sécher la mer Rouge pour que son peuple traverse. Et Dieu, donc, a choisi ou s'est servi du pharaon d'Égypte. Pourquoi pas donc cette femme immorale? Verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout de ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce pas le Christ? Verset 30. Oui. Il sortit de la ville et vint vers lui. Venez voir un homme, les gens l'écoutent, et ils sortent de la ville pour aller voir Jésus. Ne serait-ce pas le Christ? C'est ça la question qu'il a posée. Elle commence à avoir la foi et les gens la voient et maintenant ils vont voir pour eux-mêmes. Jésus les voit venir et c'est à ce moment-là qu'il commence à parler d'une moisson. Pas d'une moisson de blé, mais d'une moisson des âmes qui sont ouvertes à écouter. Versets 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Ils furent beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Donc, qu'est-ce que nous apprenons de cette histoire? En plus du fait que Dieu peut se servir de n'importe qui ou de n'importe quoi, et en plus du fait que les obstacles, comme l'obstacle social, l'obstacle de race ou morale ou de candidat, ne doit pas nous empêcher de faire ce qui est juste de faire, il y a une troisième leçon importante. Et voilà la leçon que j'aimerais laisser avec vous. Une femme immorale, une femme rejetée, une femme qui n'avait rien par rapport, par exemple, à Nicodème, par sa petite foi naissante, a amené une foule de gens au Christ. Voyez-vous, Jésus n'a pas besoin de grands, il n'a pas besoin de beaucoup de gens éduqués, ou de ceux qui sont les plus doués, il a besoin de gens qui sont disponibles. Et c'est là la troisième leçon que je peux tirer de ce chapitre. Il a besoin de gens disponibles, c'est tout, tels que la mauvaise Samaritaine. Et je termine avec une question, voilà, tout simple, par rapport à ce que nous avons lu en Romains 12, versets 1 et 2, sacrifice vivant, êtes-vous des gens disponibles ?